Écho d'ici, écho d'ailleurs. Dominique Maillard, Guillaume Munier.
Bienvenue dans Écho d'ici, écho d'ailleurs, l'émission qui décrypte les rouages de l'économie mondiale avec un sujet global aujourd'hui et beaucoup, beaucoup de questions locales sur ce nouvel impôt sur les multinationales adopté par 130 pays. Leur espoir, reprendre la main sur le pactole des profits détournés dans les paradis fiscaux.
Le G7 récemment a fait un geste dans la solidarité fiscale au plan international, c'est un geste important et je salue les pays au niveau de l'OCDE qui viennent de signer cette solidarité fiscale internationale. Vous savez que les pays du tiers-monde sont ceux qui subissent le plus le refus de paiement des multinationales. Donc nous nous applaudissons, mais nous attendons la mise en œuvre et nous souhaitons accompagner.
Une réforme voulue par les pays riches qui doit renforcer la solidarité, mais qui est encore en partie à écrire. En quelques mots, le président du Sénégal, Macky Sall, qu'on vient d'entendre, souligne les traits saillants de cette réforme souvent qualifiée d'historique. Alors c'est un vieux projet soutenu par l'Europe, mais ce sont les États-Unis de Joe Biden qui l'ont relancé, rendu possible. Le club des grandes puissances, le G7, en a entériné le principe. Le G20, qui regroupe les pays riches et les grands émergents, Jean a validé la réforme le week-end dernier au niveau des ministres des Finances réunis à Venise, en Italie. C'est maintenant dans l'enceinte de l'OCDE, là où tout a commencé, que les discussions doivent se poursuivre pour parvenir à un texte faisant l'unanimité. Il sera alors présenté au sommet du G20 à la fin du mois d'octobre. Ensuite, chaque pays adhérent doit le mettre en musique pour en toucher les dividendes à partir de 2023, si tout va bien. L'objectif des États, c'est de récupérer les recettes fiscales qui leur échappe depuis des années, les grosses entreprises multinationales étant devenues des orfèvres en matière d'évasion fiscale. Elles parlent pudiquement d'optimisation, une façon de dire qu'elles utilisent des moyens tout à fait légaux pour se soustraire à l'impôt. Mais se soustraire à l'impôt, c'est un délit sanctionné dans la plupart des pays, à condition bien sûr qu'on arrive à en faire la preuve. Alors est-ce bien le Big Bang fiscal, après des décennies de concurrence fiscale au bénéfice du privé, au détriment du public? Les gouvernements sont-ils en train d'inverser la tendance? Est-ce une réforme cousue main pour les pays riches? Dans ce cas, quel bénéfice pour les États ayant du mal à faire rentrer l'argent dans leur caisse? Voici quelques-unes des questions qui se posent aujourd'hui. Pour y répondre, pour en savoir plus, nous avons réuni dans ce studio une brochette d'experts. En ligne avec nous, Heike Boos de l'OCDE. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de conseiller les pays en développement sur les questions fiscales. Vous jouez donc un rôle clé dans le vaste marchandage qui va accoucher à l'OCDE du texte final. En ligne également depuis l'Afrique du Sud, une autre experte de la fiscalité pour le continent africain, Nara Monkam. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes de nationalité camerounaise, économiste, chef économiste du Forum africain pour l'administration fiscale, l'organe qui conseille les gouvernements africains en la matière. Et puis en ligne, toujours cette fois depuis Clermont-Ferrand, Grégoire Rota Graciosi, bonjour.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Alors vous êtes le directeur du CERDI, le Centre d'études et de recherche sur le développement. Nos auditeurs vous connaissent bien parce que vous êtes un habitué d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Il me semble que c'est votre quatrième participation, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Et vous êtes un expert aussi en matière d'impôts puisque vous avez travaillé sur ce dossier pendant 5 ans au FMI. Et puis en studio, Farid Toubal. Bonjour Farid.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Alors vous êtes économiste enseignant à Dauphine, conseiller du CEPI, l'un des économistes qui travaille activement sur l'impact de cette réforme. Vous venez de publier une note sur son effet à la demande du Conseil d'analyse économique, une instance rattachée à Matignon, une instance composée de chercheurs indépendants. Alors cette réforme s'appliquera aux entreprises les plus puissantes, la centaine de multinationales avec un chiffre d'affaires et un profit surtout supérieur à 10%. Elle repose sur deux axes. Premièrement, elle définit dans quel pays une entreprise doit acquitter l'impôt. Deuxièmement, quel est le plancher minimum de la taxe. Heike Boos, est-ce que vous pourriez nous préciser ces deux axes et nous dire en quoi c'est révolutionnaire ?
Déjà, c'est révolutionnaire, comme vous venez de dire, qu'on a réussi à se mettre d'accord avec maintenant 132 pays. Et ces 132 pays représentent plus de 90% du PIB mondial. Et dans ces 132 pays, nous avons 23 pays africains dans 13 pays africains francophones. Et tous ces pays ont été positifs et ont rejoint l'accord.
Alors, est-ce que vous pourriez préciser les deux axes hein, pour qu'on comprenne bien?
Tout à fait. Donc, notre accord qui est basé sur ces deux piliers vise à faire en sorte que les entreprises multinationales paient une juste part d'impôts partout où elles exercent des activités et génèrent des bénéfices. Et notre accord vise également à renforcer la sécurité juridique et la stabilité du système fiscal international. Et sur les deux piliers, le premier pilier, il garantira une répartition plus équitable des bénéfices et des droits d'imposition entre pays concernant les grandes multinationales, y compris celles du numérique. Et il permettra de réattribuer une partie des droits d'imposition sur multinationales de leur pays d'origine au pays de marché. Donc, c'est très important. Ce pilier 1 créera un nouveau droit de taxer les gagnants de la mondialisation, ce qui est très important également pour les pays en voie de développement, parce que même les petits marchés y bénéficieront.
D'accord. Et c'est donc, avec un taux à 15%.
Non, ça, on est sur le premier pilier. Donc, sur le premier pilier, c'est vraiment un nouveau droit d'imposition pour réattribuer les droits d'imposition des multinationales. C'est en faveur des pays de marché. Parce que précédemment, c'était important d'avoir une présence physique. Et maintenant, avec les nouveaux modèles d'affaires, ça ne marche plus. Donc maintenant, ce nouveau droit d'imposition permettra de réattribuer une partie des droits d'imposition, peu importe si les multinationales ont une présence physique ou non dans les pays de marché. Cela est vraiment révolutionnaire parce que ça change vraiment les bas d'imposition. Parce que précédemment, notre base d'imposition datait des années 20 et elles sont vraiment plus adaptées au modèle d'affaires d'aujourd'hui. Et donc, le deuxième pilier, comme vous venez déjà de le décrire, il va mettre en place cet impôt minimum mondial et il devrait générer plus de 150 milliards d'euros de recettes supplémentaires au niveau mondial par an.
Merci Heike Boos. Je voulais juste bien qu'on soit d'accord, c'est bien 15%, c'est définitif ce taux. Ou ça peut
c'est
encore
au
bouger.
Moins 15%.
Merci Heike Boos. Je me tourne maintenant vers Farid Toubal. Donc Heike Boos le disait à l'instant, un montant de recettes supplémentaires espéré à 150 milliards de dollars. Qui va en profiter? Quels sont les pays qui vont le plus en profiter?
On est dans les négociations internationales. Donc comme Heike vient de le dire, il y a deux piliers dans la réforme. Un premier pilier, on redistribue des droits taxés. Sur la base de plus d'une centaine d'entreprises. En fait, ce sont toutes les entreprises qui font un chiffre d'affaires supérieur à 20 milliards d'euros. Et puis, on prend finalement leur profit résiduel, on prend 20% de ce profit résiduel, on le redistribue à la planète sur les marchés de consommation. Et il y a des détails assez complexes dans la redistribution. Le deuxième pilier, effectivement, c'est la mise en place d'une imposition minimale. On entend beaucoup les ONG lever la main et nous dire finalement en fait les pays africains, les pays en voie de développement ne bénéficieront pas de cette réforme parce que finalement en fait le deuxième pilier ouvre des droits pour les pays où sont localisés les sièges sociaux. D'abord, il faut rappeler ce qu'est un siège social, c'est le centre de décision de l'entreprise, et la plupart de ces sièges sociaux sont localisés dans les pays de l'OCDE, les pays riches. Et donc, les pays en voie de développement et ceux qui ont décidé de pas finalement signer cet accord nous disent, ils sont pas nombreux, mais ils n'ont pas signé, nous disent, finalement, on va rien recevoir, nous, parce que, le taux est trop faible, le taux de 15%, et puis deux, ce sont les pays de localisation des sièges sociaux qui récupèrent la monnaie. C'est pas totalement exact, parce que le deuxième pilier, ce qui est vraiment important de comprendre dans le deuxième pilier, c'est que le deuxième pilier, en fait, met un frein total à l'évitement fiscal des entreprises. Vous l'avez appelé évasion fiscale. La plupart des entreprises multinationales ont des comportements d'optimisation fiscale agressive qui sont des moyens légaux et ils déplacent une grande partie de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux. À partir du moment où on met un taux minimal d'imposition, ces paradis fiscaux n'ont plus de raison d'être. Et donc, tous les transferts de bénéfices des multinationales localisées sur le territoire africain vers des paradis fiscaux, pour la plupart caribéens, européens, Singapour, Hong Kong, n'auront plus lieu. Donc c'est une manne de recettes fiscales pour les pays africains également.
Mais quand même, on entend dire que, étant donné que les sièges sociaux sont souvent situés aux États-Unis, on entend dire que c'est quand même une réforme qui va d'abord profiter aux États-Unis.
C'est une réforme qui profite à tous dans une certaine mesure. Nous, on a mené une étude sur 40 pays. Les recettes fiscales que les pays reçoivent, effectivement, sont hétérogènes selon la taille du secteur des multinationales dans les pays d'origine. Donc effectivement, les multinationales américaines sont présentes beaucoup plus que les multinationales françaises ou encore nigériennes ou encore sud-africaines sur des territoires étrangers. Donc effectivement, les recettes fiscales seront un peu plus élevées aux États-Unis qu'au Nigeria ou en Afrique du Sud. Mais c'est ce principe vraiment fondamental de l'imposition minimale qui tue quelque part en fait l'activité d'évasion fiscale dans les paradis fiscaux est vraiment fondamental. C'est vraiment fondamental. Des entreprises qui sont localisées dans des pays en développement n'auront plus la possibilité de transférer leurs bénéfices vers des paradis fiscaux. S'ils le font, ils seront taxés à un taux qui est le taux minimal. Et donc, les recettes fiscales se délocaliseront vers les pays des headquarters, des sièges sociaux. S'ils arrêtent, c'est la taxation locale qui aura lieu. Donc, ce sont les pays en développement qui bénéficieront de cela.
Nara Monkam, est-ce que vous avez déjà fait tourner vos calculettes? Est-ce qu'on a déjà une idée des retombées fiscales pour les États africains?
Nous sommes... Effectivement, merci beaucoup Dominique. Nous sommes effectivement en train de faire tourner nos calculettes. Mais je voulais juste dire que nous ne sommes pas totalement d'accord avec ce que l'intervenant précédent a dit.
Farid Toubal.
Oui. Le taux effectif minimum à 15%, c'est déjà une bonne chose. Mais ça reste, ça n'arrête pas. Un élément très, très efficace en fait pour les pays africains, parce que nous avons suggéré un taux effectif minimum d'au moins 20%, parce que si ça reste à 15%, ça ne réduit pas nécessairement les incitations de transfert artificiel de bénéfices par les multinationales, parce qu'il reste des incitations si ça reste à 15%, parce que le taux d'imposition statutaire en Afrique reste entre 25 et 35%. Donc il y a toujours des marges d'incitation pour les transferts illicites de bénéfices et aussi les transferts artificiels de bénéfices en fait en Afrique. Donc nous, notre position, c'est d'avoir un taux minimum effectif à au moins 20%.
D'accord. Oui, Farid Toubal, qui est en studio, veut préciser que la France proposait un taux de 21%.
Non, en fait, le ministre des Finances proposait un taux qui était plus ou moins autour de 15%. Mais nous, pour remettre tout le monde d'accord autour de cette émission, autour de cette table, moi, économiste, et l'ensemble des personnes qui travaillent sur ce sujet avec moi, ont proposé un taux minimal à 21%. Et ce taux minimal à 21% était un taux effectif. Parce qu'il n'y a pas qu'une question de taux. Le taux peut être de 15 sur une assiette qui est très très petite, où on a beaucoup beaucoup de déductions, ou un taux de 21% qui est effectif sur une assiette qui est plutôt pleine. Donc nous, je tiens à dire qu'on n'a jamais proposé quelque chose à 15%. Ce serait vraiment, à notre sens, très faible. Et 21% était le taux qu'on proposait, et c'était un taux sur une assiette plutôt pleine.
D'accord, mais pour l'instant, c'est le chiffre de 15% qui circule. Grégoire Rota Graciosi, pour vous, est-ce que la réforme, enfin les grands principes, hein, parce qu'on le disait au début d'émission, il y a encore pas mal de discussions, est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens? Et puis, est-ce qu'on ne peut pas s'étonner qu'il ait fallu un siècle pour modifier, pour prendre en compte cette nouvelle donne de la mondialisation, de la digitalisation de l'économie? Bon, la digitalisation, elle n'a pas un siècle, mais elle a quand même plusieurs décennies déjà.
que ça aille dans le bon sens, j'ai envie de dire oui et non, puis si je voulais être provocateur, on va entretenir un système qui a été fait pour les pays riches, exportateurs de capitaux. En fait, ces pays riches, que ce soit la France et les États-Unis, se sont retrouvés maintenant être des pays entre guillemets pauvres, puisque avec l'apparition des paradis fiscaux, ils deviennent importateurs de capitaux par des effets d'optimisation fiscale plus ou moins agressive. La question du taux minimal de 15%, en fait, pour moi, elle n'est pas très importante. C'est vraiment la question de l'assiette.
Vous rejoignez Farid Toubal.
Oui, l'assiette. L'assiette est très complexe. On rajoute avec cet accord encore un degré de complexité supplémentaire qui, à la fin, fera augmenter le chiffre d'affaires des Big Four, c'est-à-dire des quatre grandes entreprises de conseil et d'audit mondiaux, les Ernst & Young, Deloitte, KPMG et PwC. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de pays africains ont un impôt minimum alternatif à l'IS pour éviter l'optimisation fiscale agressive qui est basée simplement sur le chiffre d'affaires. C'est un impôt très distorsif, très critiqué par les économistes, mais il n'empêche qu'il est simple à administrer. Et la France, et ça relève du pilier 1, pour taxer les multinationales, les GAFA, a proposé dès 2019 une taxe sur les services numériques de 3% sur le chiffre d'affaires. Elle rejoignait en ce sens les pays africains qui avaient des taxes qui variaient de 0,5 à 2, 3% du chiffre d'affaires. C'est une taxe très critiquée par les économistes, mais ça collecte des recettes.
Oui, Farid Toubal.
Je peux intervenir là-dessus justement. En fait, elle est critiquée par les économistes, pas parce qu'elle elle permet de s'accaparer certaines recettes. Elle est critiquée parce qu'en fait, la complexité de la mise en œuvre de ces taxes, plus au bénéfice des recettes, dans l'exercice 2019, en fait, la DST mise en place par la France a rapporté grosso modo 350 millions d'euros.
La DST ?
La taxe digitale, la taxe GAFAM.
D'accord.
Excusez-moi. Oui, elle a rapporté 350 millions d'euros. Une taxe minimale rapporterait à la France, au bas mot, 6 milliards d'euros. Quand on rapporte les recettes de la mise en place d'une taxe digitale à celle de la mise en place d'une taxe minimale, à la complexité de la mise en place d'une taxe sur le chiffre d'affaires, on voit bien que les gains sont supérieurs. Et les économistes réfléchissent toujours en termes de coût marginal, recettes marginales. Les recettes marginales sont supérieures au coût de mise en place, donc on devrait les mettre en place.
Alors, il y a aussi une spécificité. Certains secteurs sont exclus. C'est le cas des industries extractives, des industries financières. Pourquoi ce choix ? Heike Bus, vous pouvez nous éclairer ?
Oui, tout à fait. Donc, pour les extractives, ça, c'est justement en faveur des pays en développement, parce que justement, c'est eux qui ont demandé que les extractives dont ils bénéficient souvent soient pas inclus dans le champ d'application du pilier 1, pour que les droits d'imposition restent bien dans les pays en voie de développement. Pour les services financiers, cela a été exclu parce qu'on pense que comme les services financiers sont déjà bien réglementés, que le plus souvent, cela impliquera qu'il y a déjà une présence physique dans les pays. Donc, on n'aura pas besoin de ce nouveau mécanisme de réattribution des bénéfices. Si je peux juste rajouter aux points qui ont été faits avant, je voudrais juste souligner que c'est important de constater que c'est vraiment un compromis et qu'on a fait beaucoup d'efforts et on a trouvé ce compromis avec 132 pays. Donc, ce n'est pas un compromis parfait. Donc, personne n'est satisfait à 100%, mais on a négocié jusqu'à la fin et jusqu'à la dernière minute. Et les pays en voie de développement, notamment les pays africains, ont beaucoup contribué aux négociations. Justement, dans l'introduction, vous disiez qu'il y a d'abord eu un accord du G7, mais justement, les pays africains, avec l'aide de la TAF, que je salue beaucoup, ont vraiment beaucoup...
La TAF, vous pourriez préciser ?
La TAF, c'est
le forum de l'administration fiscale africaine, d'accord, qui est représenté par Nara Monkam, ici présente. Mais pour nos auditeurs à TAF, c'est pas très...
Oui, bien sûr, évident. Je comprends tout à fait. Oui, je comprends tout à fait. Donc justement, les pays africains, avec l'appui de la TAF, ont beaucoup contribué à améliorer l'accord qui avait été trouvé auparavant au sein du G7. Donc notamment, il y a des seuils plus bas pour les pays en voie de développement, le chiffre d'affaires des multinationales pour entrer dans le champ d'application de ce nouveau droit d'imposition sera abaissé après une revue. Il y a plein d'éléments. Il y aura aussi plus de souplesse pour les pays en voie de développement par rapport à la sécurité juridique, ce qui est très important pour les pays en développement. Donc, il y a plein d'éléments qui ont été améliorés grâce notamment aux pays africains. Et je voudrais juste dire pour le taux d'imposition au moins 15%, il faudra comparer ce taux-là avec ce que les entreprises paient actuellement sur leurs revenus faits à l'étranger, ce qui est plus proche de 3 à 5%.
D'accord.
Donc, c'est quand même une différence énorme.
Très bien, merci pour cette précision. Je vous propose maintenant d'écouter un reportage parce que, bon, on parle de cette taxe révolutionnaire, mais il y a encore beaucoup d'entreprises, des poids moyens, qui continueront à bénéficier d'un régime très accommodant. C'est le cas notamment de l'entreprise franco-italienne ST Microelectronics qui fabrique des puces électroniques. Et la CGT a dénoncé les largesses dont elle bénéficie. Reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Alexis Bédu.
Comment est-ce possible que notre entreprise ne paye pas d'impôts en France? C'est la question posée par Marc Leroux, délégué syndical CGT chez ST Microelectronics, dans sa lettre à Bruno Le Maire. La maison mère de la multinationale est hollandaise, le siège est en Suisse et l'entreprise a comme actionnaire les États français et italiens. Marc Leroux aimerait que le périmètre de la nouvelle taxation mondiale soit élargi.
On tape sur les GAFA, c'est très bien, mais il faut avoir une vision plus large. Essayer de mettre un peu d'ordre dans l'ensemble des entreprises multinationales. Donc, on veut que l'État français regarde ce qui se passe, puisque on trouve qu'il y a des choses tout à fait anormales.
ST Microelectronics possède un quart de ses effectifs en France, ça représente 6000 personnes. L'année dernière, l'entreprise a fait un résultat mondial d'1,3 milliard d'euros, mais rien que sur la France, le résultat est négatif, moins 150 millions d'euros. La société n'a donc payé qu'1 million d'euros d'impôts en France cette même année 2020, trop peu par rapport à la valeur ajoutée créée sur ses sites de recherche et développement dans l'Hexagone. C'est ce qu'explique Marc Leroux.
L'entreprise répond qu'elle est dans la loi, qu'elle respecte la loi. Dans ce cas-là, on dit qu'il faut regarder la loi et faire en sorte que la loi ne permette pas, par exemple, d'avoir des prix de transfert entre filiales qui aboutissent à ce qu'on sous-valorise tout le travail de recherche et développement ou de production qui est fait, par exemple, en France ou en Italie.
Il faut aller plus loin pour ce syndicaliste. Est-ce possible? Pas simple, mais réalisable pour l'avocat fiscaliste Alfred Lorta-Jacob, qui estime qu'il existe en ce moment une dynamique d'harmonisation de la base fiscale entre les différents États de l'Union européenne.
Ça va être extrêmement compliqué de définir des règles adapté. On a réussi au niveau européen à avoir une harmonisation quasi totale pour un impôt qui est essentiel, qui est la TVA. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, c'est extrêmement compliqué. Il y a une prise de conscience, je dirais, des États qui est de dire tout cela est terminé. Maintenant, la concurrence fiscale n'est plus de mise. Il faut qu'il y ait un système totalement harmonisé. La matière fiscale, elle va être mieux répartie de manière beaucoup plus équitable, équilibrée, et elle ne va pas se centraliser dans des pays à faible imposition.
Des États à la fiscalité attractive comme l'Irlande craignent pour leurs recettes publiques, pour l'emploi et opposent donc toujours une résistance au changement de règles. De nombreuses multinationales profitent de cette concurrence entre États au niveau européen pour contourner les règles d'imposition, ce qui fait dire à de nombreux spécialistes de la fiscalité que la nouvelle taxation mondiale est à la fois un aboutissement et le début d'une nouvelle aventure.
Alors une nouvelle aventure, surtout pour justement ces petits pays dont parlait Alexis Bédu, comme la Hongrie, qui ont fait leur miel de l'optimisation fiscale. On voit aujourd'hui qu'il y a des récalcitrants en Europe, la Hongrie, l'Irlande, l'Estonie. Ce sont des pays qui ont aussi basé leur développement sur une faible imposition pour attirer les investisseurs. Et ils doivent adopter aujourd'hui un autre mode de croissance, Farid Toubal ?
Oui, bon, en fait, certains d'entre eux l'ont déjà adopté, en fait. C'est le cas de l'Irlande. Mais il y a un facteur commun à tous ces pays, ce sont des pays qui sont à la frontière, à la périphérie de grands ensembles, de grands marchés. C'est le cas des pays caribéens à la frontière des grands ensembles du grand marché américain. C'est le cas de ces pays en Europe, l'Irlande, la Chypre, Malte, à la frontière de l'Europe et de son grand marché. Pour l'Irlande, en fait, l'Irlande avait basé au début des années 90... une stratégie très agressive en termes de fiscalité, avec des déductions offertes aux entreprises qui se localisaient sur le territoire. Mais la fiscalité n'est qu'un seul facteur de localisation. Ils l'ont très vite compris. Donc ils ont investi massivement au cours des années 2000 dans l'éducation, avec aujourd'hui des résultats très satisfaisants pour cette économie. C'est une des populations les plus éduquées du monde, fait dans le top 10 des populations les plus éduquées du monde. Et puis a su attirer des entreprises à très forte valeur ajoutée, notamment la pharma et l'électronique. Et donc, il y a un changement structurel qui s'est opéré en Irlande, qui fait que cette économie croit encore baser ses avantages comparatifs sur la fiscalité, alors qu'elle n'a plus cet avantage comparatif, que d'autres avantages comparatifs ont été développés. C'est un peu aussi le cas de l'Estonie. Pour la Hongrie, je pense qu'il y a des facteurs géopolitiques qui expliqueraient en fait ce refus de signature d'adhésion qui dépasse un peu la réforme de la taxation internationale.
Oui, la Hongrie qui a des problèmes d'état de droit, qui est tous les jours contesté par Bruxelles, par ses partenaires de l'Union européenne. Donc effectivement, c'est peut-être un moyen parmi d'autres de peser dans le débat. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les entreprises de type ST Microelectronics vont devoir revoir leur schéma? Est-ce que ça pourrait être le début d'une nouvelle ère où on aura une plus grande vigilance, ou est-ce qu'il y aura encore beaucoup de trous dans la raquette?
Alors moi, j'ai trouvé votre reportage assez fantastique parce qu'il dit deux choses. La personne qui s'exprime dit deux choses dans ce reportage. Il dit il y a des pays, des paradis fiscaux où, par le biais de transferts, de manipulation des prix, je peux transférer mes recettes dans ces paradis fiscaux où les bénéfices sont taxés très faiblement et les coûts reste ici en France, et en fait ces coûts ont aussi une déduction, parce qu'il ne faut pas oublier, la France a une patent box, donc il y a des déductions qui s'opèrent en fait sur ces activités.
Patent box,
ce sont des activités de, lorsque vous opérez des activités de recherche et développement en France et que vous développez des brevets, vous obtenez des déductions fiscales de la part de l'État. Et donc, la France a mis en place ces déductions sur son territoire. Et donc, ces sociétés qui transfèrent le bénéfice bénéficient de l'accès aux paradis fiscaux, mais en plus, deuxième effet, bénéficient de déductions fiscales sur leur territoire. Et c'est là que la discussion qu'on avait peut-être auparavant avec Grégoire, qui rappelait que le problème de l'assiette est un très 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 important problème, c'est que si vous mettez en place des taux très importants, c'est très bien, mais si ces taux s'appliquent à un profit très faible, parce que vous avez déduit les brevets, vous avez déduit telle ou telle autre chose, bah vous y gagnez plus rien. Et pour le cas africain, dans la mise en place de l'imposition minimale, est arrivé dimanche dernier un prélèvement à la source. Donc il y a cette clause qui dit, bon, finalement ça s'appelle la règle de l'assujettissement à l'impôt, qui permet aux États africains de récupérer un tout petit peu d'argent de la mise en place de cette règle fiscale. Et certains, comme le Nigeria, on dit, ben moi, je trouve, un, le taux minimal d'imposition est trop faible, 15%, ça ne nous intéresse pas. Deux, le prélèvement à la source est trop faible, ça va être de 7 à 9%, c'est trop faible, ça ne nous intéresse pas. Et en plus, dans cette assiette que vous prenez en compte pour calculer ce prélèvement à la source,
vous ne comptez pas les plus-values. Et donc l'assiette sera trop faible.
Oui, j'allais justement poser la question à Nara Moncam, hein, parce qu'on a le Nigeria et on a le Kenya qui sont des récalcitrants. Et bon, alors là, vous avez déjà en partie répondu à la question que j'allais poser. Nara Moncam, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Est-ce que vous comprenez la position de ces deux pays? Est-ce qu'elle est entendable?
Récalcitrant, je ne dirais pas. Parce que, comme vous le savez, malgré le fait qu'on a 132 pays, il y a encore des pays qui n'ont pas adhéré à l'accord. Et on devrait respecter et continuer d'écouter leurs préoccupations avant la finalisation de cet accord en octobre de cette année. Donc la décision d'adhérer ou pas à cet accord est une décision souveraine de chacun de chaque pays que nous respectons absolument en ce qui concerne enfin pour en ce qui concerne la TAF pour savoir pourquoi le Kenya et le Nigeria ont proposé ont décidé de ne pas accepter certaines solutions proposées, ça reste que leur prérogative en fait. Mais nous restons, en tant que la TAF, prêts à continuer d'apporter l'assistance à ces pays de façon à ce que leur voix soit entendue au niveau du cadre inclusif. Nous sommes préoccupés en fait par le fait que les pays qui n'ont pas adhéré à cet accord et qui ne sont pas membres du cadre inclusif, et qui représentent la moitié de l'Afrique, ne soient pas contraints d'y adhérer. Par exemple, à l'instar de l'approche de la liste noire de l'Union africaine, de l'Union européenne, pardon, et des sanctions commerciales des États-Unis, en fait. Donc, ça reste une préoccupation majeure, et nous incitons vraiment, nous faisons appel aux pays développés de ne pas justement imposer des contraintes à ces pays en ce sens-là.
D'accord, merci. Donc oui, vous précisez bien que le Niger et le Kenya ne veulent pas moins de réformes, mais plus, au contraire. Ils voudraient une réforme plus exigeante. L'évaporation fiscale, c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème en Afrique, Nara Moncam ?
C'est un gros problème. Et en fait, vous voyez, avec les conséquences de la pandémie globale, maintenant, nos économies ont été dévastées. Donc, on essaie de faire tout ce qui est à notre pouvoir, et surtout avec l'Union africaine, où justement notre rôle aussi, ça a été de prendre l'opinion, de rassembler les avis des ministères, des ministres des Finances et des chefs d'État, en fait, pour justement apporter nos préoccupations au niveau du cadre inclusif. Donc, si les économies africaines seraient à même de se relever de l'impact dévastateur de cette pandémie globale, on devrait faire en sorte que les règles, les nouvelles règles décidées au niveau du cadre inclusif soient le plus efficace possible et le plus juste possible aussi pour réattribuer les droits d'imposition au niveau des pays africains.
Grégoire Rota Graciosi, comment est-ce que l'Afrique peut faire aujourd'hui pour éliminer cette évaporation fiscale qui lui fait tant de tort, alors que vraiment les États auraient besoin de recettes bien supérieures fiscales?
Juste un point pour revenir sur votre reportage qui était intéressant, parce que c'est un syndicaliste. Il ne faut pas oublier que vous avez l'incidence fiscale, c'est-à-dire que même si on parle d'une taxe sur les profits, à la fin, cette taxe sur les profits va être supportée. Il y a des études qui vous expliquent que cette taxe sur les profits, même si vous l'augmentez d'un euro, elle sera supportée en partie par les salariés. D'accord ? Donc même donc ça, c'est à prendre en compte. Maintenant, l'évaporation fiscale en Afrique, bien sûr, il y a l'optimisation fiscale agressive, légale des multinationales. Mais il faut pas oublier que les pays africains qui suivent souvent avec un peu de retard les pays développés ont mis en place beaucoup de systèmes d'incitation fiscale, d'exonération, ce que l'on appelle des dépenses fiscales. En France, on appelle ça les niches fiscales, mais ce sont des dépenses fiscales. Le crédit d'impôt recherche en France, voilà, on a parlé Monsieur Toubal, c'est une niche fiscale pour inciter au développement et la recherche en France. En Afrique, beaucoup de grandes entreprises bénéficient en fait d'exonérations ou d'allègements fiscaux très conséquents dans une course qui est liée à la concurrence fiscale, qui en fait non seulement on baissait les taux statutaires de l'IS, mais en plus On multipliait les régimes dérogatoires, parfois sans passer par les parlements nationaux, hein, simplement par des conventions plus ou moins opaques. Donc là, c'était une et ça reste une grande source d'évaporation fiscale, des recettes fiscales. Et les recettes de l'IS en Afrique sont relativement plus importantes que pour les pays développés. Hein. Ce sont un élément important des recettes budgétaires de l'État.
L'IS, l'impôt sur les sociétés.
L'impôt sur les sociétés, oui.
D'accord.
Oui, ça représente environ 15% des recettes totales des pays africains, alors qu'en dans les pays riches, c'est moins de 8%, 8-10%.
D'accord. On reviendra un peu sur ce dilemme hein, des pays africains qui ont besoin de plus de recettes fiscales, mais qui doivent aussi attirer des investisseurs. Je vous propose tout de suite d'écouter un petit reportage sur Maurice, ce petit paradis de l'océan Indien pour les touristes. Et c'est aussi un havre apprécié des champions de l'optimisation fiscale. On parle volontiers de la Suisse de l'Afrique avec des taux pouvant descendre jusqu'à 3% pour les entreprises. Alors ce pays est sous la loupe de l'OCDE, placé sur la liste grise des paradis fiscaux du GAFI. Il aimerait bien en sortir. Le centre financier mauricien cherche à se diversifier en offrant des services plus sophistiqués. Notre correspondant à Port-Louis, Abdoulaye Irali, a enquêté. C'est un reportage Éco-d'ici, Éco-d'ailleurs.
Le centre offshore mauricien a tenu bon pendant 3 décennies. Son modèle d'optimisation fiscale, souvent montré du doigt, lui a permis de développer un secteur financier aujourd'hui solidement ancré dans l'économie du pays. Parmi les sociétés qui évoluaient dans cet environnement avant de diversifier leurs services, figure Rogers Capital. Cette société de gestion a connu, en plus de 25 ans d'existence, une croissance constante. Nadia de Chazal dirige son bureau développement et alliance.
Aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 1000 clients sous gestion. On va dire une belle croissance régulièrement tous les ans. On n'a pas eu de rupture franche à aucun moment.
Historiquement, parmi les premières sociétés de gestion dans l'offshore mauricien, Rogers Capital a monté en gamme et accompagne aujourd'hui des groupes étrangers dans leur projet d'expansion en Afrique.
Je vais vous donner un exemple concret. Un grand groupe français veut installer sa centrale d'achat pour toutes les opérations africaines à Maurice. Rogers Capital va créer la société, va opérer toutes les opérations d'administration, de secrétariat juridique, de comptabilité, tout ce qui n'est pas le core business, c'est un accompagnement global.
Le succès de la plateforme mauricienne reposait sur des traités fiscaux avantageux, historiquement avec l'Inde, au point où Maurice était devenu le premier investisseur de cette puissance économique, du fait notamment des opérations de carrousel. Sous la pression de New Delhi, ce traité a été revu il y a 5 ans, ce qui a forcé de nombreuses sociétés mauriciennes à se réadapter. Priscilla Patou, vice-présidente de la Chambre de commerce France-Maurice et fondatrice du cabinet GP Legal.
Il faut arrêter de dire que Maurice fait de l'optimisation fiscale parce que Maurice n'est pas unique en ce sens. Mais aujourd'hui, les entreprises viennent s'installer et choisissent Maurice, non plus pour les avantages fiscaux, parce que, un, on est avec l'OCDE et le BEPS aujourd'hui, on n'a plus de fiscalité différente entre le domestique et le offshore, le global business. Donc quiconque est résident fiscal mauricien peut bénéficier du régime fiscal mauricien, dès lors que les critères sont remplis. En sus, avec éventuellement une taxation à 15% au niveau global, cela rend vraiment l'optimisation fiscale, je dirais pas obsolète, mais c'est vraiment une considération qui n'est plus l'essentiel pour les entreprises dans leur expansion et dans leur choix de juridiction pour se développer.
Si l'Europe occupe une part substantielle dans ses affaires, les investissements viennent de plus en plus de l'Afrique, de l'Inde et de la Chine. Cette tendance va s'accentuer, prévoit Samad Jumen, directeur général de Mauritius Finance.
Aujourd'hui, avec l'accord que Maurice a signé, l'accord de libre-échange avec la Chine, et effectivement un accord de libre-échange avec l'Union africaine, et aussi avec un accord de partenariat et de libre-échange avec l'Inde. On va devenir une plateforme pour attirer les investisseurs de l'Asie pour pénétrer les marchés africains.
Le centre financier mauricien emploie directement plus de 8500 professionnels et représente 13% du produit intérieur brut. Ces actifs colossaux, 700 milliards de dollars, ont permis à Maurice d'amortir le choc économique provoqué par la pandémie. Abdoulaye Irali, Port-Louis, RFI.
Grégoire Rota-Graciosi, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur la situation de Maurice ?
Alors Maurice, effectivement, s'est développé grâce à un traité de non-double imposition très très avantageux avec l'Inde. Et en fait, ça veut dire que l'île Maurice, tous les investissements britanniques et américains qui voulaient investir en Inde passaient par l'île Maurice et devenaient mauriciens. Et ce modèle de développement, il y a eu des analyses faites par la banque, par des collègues de la Banque mondiale et du fonds, Birel Prig, qui montrent que tout pays africain qui aurait un traité de non-double imposition de type OCDE avec l'île Maurice verrait une perte de ses recettes d'IS, d'impôt sur les sociétés, de l'ordre de 15%, sans avoir d'investissement direct étranger supplémentaire. Donc c'est clair que l'île Maurice a joué le rôle d'une plateforme, d'un centre offshore relativement agressif pour l'Afrique. Et aujourd'hui, le Sénégal récemment a résilié son traité de non-double imposition. Et c'est très important parce que le problème dont on parle globalement, c'est la forme des traités de non-double imposition qui répartit le pouvoir de taxation sur des transactions internationales. Et les traités dominants sont de type OCDE qui privilégient le principe de donner le pouvoir aux pays qui exportent le capital. Il y avait une alternative qui est les traités de type Nations Unies qui donnaient un pouvoir résiduel au pays où le capital travaillait. Il est vrai que le pilier 1, en l'occurrence, donnant un pouvoir de taxation résiduel au pays, au pays de marché, où il y a les consommateurs, renverse un petit peu la donne et permettront aux pays en développement de certainement renforcer leur pouvoir de taxation sur ces transactions internationales. Parce que une solution simple, très distorsionnaire pour certains, c'est de mettre des prélèvements à la source dès que les capitaux sortent du pays, hein.
Alors, je vois Farid Toubal qui approuve. Ça veut dire que les États vont enfin reprendre la main ?
J'approuve effectivement ce que vient de dire Grégoire et il l'a dit très très clairement. Il y a des choses à nuancer tout de même sur le pilier 1. Le pilier 1, c'est d'abord une redistribution des droits à taxer au niveau mondial. Je vais aller très très vite. Seules les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards d'euros sont concernés. Donc elles sont pas 100, c'était 100 quand Biden a pris la parole, enfin l'administration Biden a pris la parole, elle nous a dit ce sont les 100 plus grandes entreprises, mais aujourd'hui ça va être à peu près 200 entreprises qui seront concernées. Ces 200 entreprises, on prend leur profit résiduel, et puis on va réallouer au niveau mondial 30% du profit résiduel. Donc Grégoire nous dit c'est une bonne chose de redistribuer ces profits résiduels sur les pays de consommation. Et je ne peux que souscrire à cela. Simplement, dans la façon dont vous allez redistribuer ces profits résiduels, il faudra être très attentif à la clé de répartition. Si ce sont des consommateurs, effectivement, c'est une très très bonne chose. Mais si on réalloue le profit résiduel sur la base des ventes, alors ça peut être une très très mauvaise chose. Je prends un exemple très concret.
Allez-y.
Facebook. Si je prends les ventes de Facebook, les ventes de Facebook, c'est de la pub. Les publicités à destination du continent africain, la masse en termes d'euros, de monétaire de ces publicités, sont très très faibles. Au final, en fait, les ventes à destination des marchés de consommation, quand ils sont des pays en développement, sont très très faibles au regard des ventes qui sont faites chez nous, parce que chez nous, on a abreuvé de pubs sur Facebook tous les jours. En Chine, c'est pareil, mais pour les pays africains, c'est très très faible. Donc, la clé de répartition pour le pilier 1, la clé d'allocation des profits résiduels, elle est essentielle, vente versus consommation. Mais au-delà de ça, quand vous faites une probabilité d'une probabilité, vous prenez 200 entreprises, vous prenez à partir de 10%, vous allez réallouer 30% de le profit résiduel, et ensuite vous prenez 30% de profit résiduel que vous réallouez sur 250 territoires, enfin 225 territoires mondiaux. Ce que vont récupérer les pays, c'est très très peu. Ce que récupère la France, par exemple, dans cet exercice-là, c'est à peu près 800 millions à 1 milliard d'euros supplémentaires, ce qui est très très faible. Et la France pèse à peu près 3%, 4% du PIB mondial. Alors, rendez-vous compte, un tout petit pays en proportion du PIB mondial, comme un pays africain en voie de développement, il récupérera pas grand-chose. Donc, il faut absolument reconceptualiser ce pilier 1, faire en sorte qu'il soit beaucoup plus redistributif pour que cette équité se fasse au niveau de l'imposition mondiale.
Oui, alors au début de cette émission, Macky Sall nous le disait, les pays africains peuvent accompagner cette réforme et Heike Boos, vous l'avez souligné, les pays africains ont joué un rôle important au début. J'ai envie de vous demander aujourd'hui, est-ce qu'ils sont assez forts, assez vigilants pour pouvoir transformer les choses? Parce que là, on est dans le dur de la négociation jusqu'au mois d'octobre.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et oui, les pays en développement, les pays africains continuent les négociations avec nous, les pays africains notamment avec l'appui de la TAF. Et plus tard, dans la mise en œuvre, il y aura des programmes d'appui de la part de l'OCDE et nos partenaires internationaux et régionaux. On sera très content de travailler à nouveau avec la TAF sur la mise en œuvre également. Et je voudrais juste rajouter à ce que vient d'être dit juste avant, que pour nous, c'est vraiment un début de réforme. Donc, c'est vraiment important de changer les bases qui viennent des années 1920. Et donc, c'est vraiment un début. Donc, on pense que ça, les bénéfices qui seront réattribués augmenteront après. Pour nous, c'est vraiment un début. Même si au début, les marchés bénéficieront pas encore énormément, nous pensons que ça va augmenter dans les temps. Et pour nous aussi, c'est très important la stabilité du système financier international, parce que il y a des pays qui ont déjà mis en place des mesures unilatérales, il y a des tensions de commerce et aussi les tensions d'opinion publique. Donc c'est vraiment très important de trouver un accord, que tout le monde se mette d'accord.
Très bien, merci Heike Boos. Je voudrais aussi souligner quelque chose dont on n'a pas parlé, mais le temps presse, cette émission arrive à son terme, c'est qui est-ce qui va arbitrer les conflits? Est-ce que ça c'est clair? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une juridiction indépendante? Non, c'est pas le cas, Farid Toubal.
Non, comme il existe l'OMC, il n'existe pas d'organisation internationale qui régit les... Alors, mais simplement, on voit, il y a une convergence vers l'OCDE qui serait cette organisation en dernier ressort. Maintenant, les choses sont encore à faire et à dire.
D'accord, merci. Grégoire, un mot pour conclure?
Non, mais pour l'arbitrage, pour reprendre La Fontaine, c'est la loi du plus fort. Hein. Ouais. Donc, en l'occurrence, c'est les États-Unis aujourd'hui et à la Chine demain. Enfin.
Nara Mokam?
Je dirais que entre maintenant et octobre, où les accords devraient être finalisés, ce serait très important, évidemment, de donner l'espace aux pays africains et surtout les pays qui ont des capacités limitées de se pencher vraiment pleinement sur l'implication que ces accords auront pour eux et de leur permettre de prendre les décisions en fonction. Le cadre qui existe est un cadre qui permet un pays a une voix. Oui, malgré les positions de force de certains pays, effectivement. Mais on devrait respecter les règles de ce cadre et permettre effectivement aux pays africains de s'exprimer et de défendre effectivement leur barre fiscale et leur droit d'imposition.
Voilà, alors il faudra respecter cette règle pour que ce ne soit pas toujours le même qui gagne. Hein. Et en l'occurrence, les États-Unis, nous disait Grégoire Rota Graciosi à l'instant, c'est la fin d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs. On reviendra bien sûr sur ce sujet dans les prochains mois, parce qu'il y a encore beaucoup à dire, beaucoup à décrypter. Merci à vous, Heike Boos, Nara Mokam, Grégoire Rota Graciosi, Farid Toubal, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Cette émission a été réalisée par Guillaume Munier. Les reportages signés Alexis Bédu, Abdoulaye Rally. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'information. Moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un grand invité, Thierry Déo, le PDG du fonds Meridiam. Bon week-end à tous.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Tout à l'heure sur